Deux nouvelles qui ont retenu vraiment l'attention de peu tout le monde cette semaine à l'international. Évidemment, les manifestations qui ont plongé Haïti dans un chaos innommable. Et le président américain Donald Trump qui déclare l'état d'urgence pour faire avancer la construction de son mur entre les États-Unis et le Mexique. On va prendre ces deux enjeux-là un par un dans les prochaines minutes à l'occasion d'un petit cours privé du samedi avec Éric Arsenault, prof d'actualité internationale au Cégep de Jonquière. Bonjour, prof Arsenault.
Bonjour, Paul Raphaël.
D'abord, prof Arsenault, Haïti, racontez-nous d'abord un peu l'état de la situation présentement.
Ben, tu parlais de chaos tout à l'heure et je pense que c'est probablement le seul terme qui s'applique là-dedans. Le pays est sans dessus dessous. Vous allez me dire, dans le passé, les Haïtiens ont connu leur lot de problèmes, ont connu leur lot de malheurs, les crises politiques, les crises économiques et les catastrophes naturelles s'ajoutant au fil du temps. Sauf que celle qu'on vit actuellement est vraiment particulière. Et Paul Raphaël, si on fait un petit retour en arrière, tout ça, ça éclate le 7 février dernier. Et c'est pas une date qui est choisie au hasard parce que le 7 février, c'était le deuxième anniversaire de l'accession à la présidence du président Jovenel Moïse. Et c'est vers lui que se cristallise dans une certaine mesure toute la colère, toute la frustration des Haïtiens. Il y a essentiellement deux choses à retenir de cette espèce de mouvement de violence et de protestation et de manifestation qui justement génère le chaos dans le pays. Première des choses, puis on le sait, là, on se prend pas de cachette, Haïti vit dans des conditions économiques qui sont absolument désastreuses. C'est le pays le plus pauvre du continent américain et les conditions de vie de la population, comme si c'était possible, continuent encore de se dégrader. On estime que l'inflation cette année va être d'à peu près 15% et une grande partie de la population est incapable de faire face à cette hausse-là. La monnaie est dévaluée et ça, c'est important de le mentionner parce que la dévaluation de la monnaie haïtienne fait en sorte que les produits de première nécessité qui sont généralement importés se trouvent à coûter plus cher. Et en campagne électorale, il y a 2 ans, Jovenel Moïse s'était fait fort de dire « Moi, je suis élu pour ramener de la nourriture sur la table des Haïtiens, pour ramener de l'argent dans leur poche. » Et là, ce que se rendent compte les Haïtiens 2 ans plus tard, c'est que c'est exactement le contraire qui est en train de se passer. Donc, il n'a pas rempli ses promesses. Et j'ajouterais un autre petit truc, c'est qu'il y a eu à la fin janvier la publication d'un rapport sur la gestion d'un fonds qui était destiné justement à reconstruire le Venezuela, le Haïti, des fonds qui provenaient du Venezuela, à l'époque où ça allait un peu mieux au Venezuela. Et on se rend compte, selon ce rapport, qu'il y a eu des détournements de fonds, des anciens ministres, des fonctionnaires, tout le monde a pigé dans la caisse. Et Jovenel Moïse, par le biais d'une de ses entreprises, aurait été directement impliqué là-dedans. Alors, d'où la colère grandissante des Haïtiens à l'égard de leur président.
Mais qu'est-ce que... La question qui... Je ne sais pas si vous avez une réponse à ça, Prof. Arsenault, mais qu'est-ce qui a pu mener les dirigeants puis le pays à s'embourber dans tant de corruption? On le sait, c'est un pays qui a été dévasté par des catastrophes naturelles. Ça, c'est triste, mais c'est-à-dire qu'il y a pas, c'est pas vraiment sous le contrôle humain nécessairement, mais il y a des choses qui sont contrôlées par les hommes là, et qui sont mais que les gens détruisent là sciemment via la corruption. Comment un tel pays a pu, pays qu'on nommait quoi la perle des Antilles, comment ce pays-là a pu s'embourber dans tant de corruption?
Je te dirais 2 choses. Et tentativement, ma théorie est la suivante. Première des choses, rappelons-nous qu'Haïti a vécu pendant des décennies sous la dictature militaire, et notamment celle des Duvaliers. Mmh. On se souvient de Papa Doc, puis on se souvient surtout de son fils, Bébé Doc, qui avait poussé la corruption et le népotisme à des sommets jamais inégalés. La famille Duvalier se vautrait dans la richesse, puis une richesse là qu'on n'hésitait pas à afficher alors que le peuple crevait de faim. Et tout ça, ça a créé une espèce de culture de la corruption, une culture du népotisme qui est difficile aujourd'hui de chasser. Il y a une autre chose, c'est que les inégalités sont criantes et sont flagrantes en Haïti. Vous avez, face à la grande majorité de la population qui vit dans des conditions extrêmes, et en Haïti, là, c'est pas des farces, là, 60% de la population vit sous le seuil de la pauvreté. Mais pendant que 60% de la population vit sous le seuil de la pauvreté, vous avez une petite bourgeoisie qui, elle, au contraire, s'enrichit et prospère. Et c'est cette espèce de clash, cette espèce de confrontation-là auquel on assiste entre justement, parce que, remarque une chose, Paul Raphaël, qui sont ceux qui descendent dans la rue, qui sont ceux qui manifestent, puis de façon particulièrement bruyante et violente au cours des derniers jours, c'est les jeunes qui sont issus des quartiers populaires. La moitié de la population haïtienne a moins de 25 ans, mais cette population-là n'a pas de job. Le taux de chômage chez les jeunes est de 35-40%, puis encore probablement que ces statistiques-là sous-estiment le réel problème. Et alors, ce sont ces jeunes qu'on voit venant des quartiers populaires, des quartiers défavorisés, qui sont dans la rue. Il y a comme une espèce de cassure entre la classe politique qui n'a servi au fil du temps qu'à s'enrichir pour l'essentiel, et ces gens et ces jeunes en particulier, qui se trouvent carrément abandonnés à eux-mêmes.
Oui, Éric, dites-moi, c'est pas le comble du malheur, on dirait, ce qu'on voit actuellement, qui se passe en Haïti. On dirait que, bon, c'est le chaos, oui, mais que ça pourrait aller plus loin. T'sais, on voit des gens se promener avec des télés cathodiques qui ont été volés un peu partout, des gens qui détruisent des voitures à coups d'armes, quelles qu'elles soient. Jusqu'où ça pourrait aller, selon vous? Parce qu'on en a vu des choses comme ça dans le monde, puis selon moi, c'est vraiment pas jojo ce qu'on voit.
Ben, c'est une excellente question que tu poses, Pascal. Il y a bien des observateurs qui se posent la question. Est-ce qu'on n'est pas carrément au bord d'une guerre civile du côté d'Haïti? On l'a vu, effectivement, dans le passé aussi. Haïti est habitué à des épisodes d'instabilité politique. Puis les catastrophes naturelles, le tremblement de terre en 2010, puis l'ouragan Matthew sont venus amplifier un petit peu la situation. Mm-hmm. Mais il y a des gens qui regardent actuellement la situation évoluer. Et l'affaire, c'est que on sent pas du côté de la classe politique, et en particulier de Jovenel Moïse, dont on attendait beaucoup, puis qui avait beaucoup promis à sa population. On attend comme une espèce de sauveur ou d'individu qui providentiellement arriverait comme ça, puis réglerait tous les problèmes. Il n'y a pas de personnage comme ça qui se démarque du côté de la classe politique haïtienne.
Maintenant, si vous voulez bien, professeur, nous, on se transporte aux États-Unis. Le président Donald Trump qui a annoncé qu'il allait déclarer l'état d'urgence, l'urgence nationale, pour aller de l'avant dans la construction de son mur. Expliquez-moi, en quoi l'urgence nationale peut lui permettre de construire le mur?
Ben, ça va lui permettre, dans un certain sens, de contourner le Congrès, donc le Parlement américain, qui lui refuse justement les fonds nécessaires pour construire son fameux mur. Parce que faisons un petit retour en arrière, Paul Raphaël, tu te souviens du shutdown qui a duré 35 jours et qui avait opposé... D'un côté, Donald Trump, qui réclamait 5,7 milliards de dollars pour construire son mur, et de l'autre, les démocrates qui refusaient de donner à Donald Trump l'argent en question. C'est la raison pour laquelle le shutdown, on s'en est parlé toi puis moi dans le passé, c'est la raison pour laquelle ce shutdown-là s'est prolongé. Alors, on était sous la menace d'un nouveau shutdown s'il n'y avait pas entente entre les républicains et les démocrates, justement sur le budget, et la date limite, c'était justement hier, le 15 février. Finalement, il y a un accord de principe qui a été conclu, sauf que dans cet accord de principe-là, les démocrates ont accepté effectivement de donner 1 milliard pour le mur. D'ailleurs, on ne parle pas du mur, hein, on parle d'une barrière physique. Dans la sémantique, là, c'est quelque chose qui est très important. Alors, Donald Trump, qui réclamait quelque chose comme 6 milliards, se retrouve avec 1 milliard seulement. Donc, il manque de fonds. Et l'une des façons de procéder, ben, c'est d'invoquer effectivement l'état d'urgence, qui lui donnerait le droit, à ce moment-là, de s'approprier des fonds prévus en cas de catastrophe. La question qui se pose, et là, le débat risque d'être très intéressant au cours des prochaines semaines, puis probablement des prochains mois, est-ce qu'il y a véritablement état d'urgence? Donald Trump prétend que oui. Alors, il prend prétexte des caravanes de migrants, puis des demandeurs d'asile qui arrivent à la frontière en disant qu'il y a une invasion, que ce sont des criminels, des drogués, des violeurs, puis il y a même des terroristes dans l'eau, alors que les démocrates, de leur côté, disent non, il n'y en a pas de crise, il n'y en a pas d'urgence. Alors, est-ce que oui ou non, il y a urgence? Probablement que ça va se ramasser derrière les tribunaux. Il va falloir définir est-ce que c'est véritablement ce à quoi on assiste, une crise, et est-ce que dans cet état-là, Donald Trump est justifié d'invoquer l'état d'urgence?
Et là, donc, comme vous le dites, le judiciaire risque de s'en mêler. L'affaire, c'est qu'à la Cour suprême, il commence à y avoir de plus en plus de partisans de Donald Trump.
Et je trouve ça intéressant que tu le soulignes, effectivement, parce que dans le fond, ce qui s'engage, c'est une bataille sur l'équilibre des pouvoirs. Parce qu'en théorie, le budget, l'argent et les fonds, ça relève du Congrès. Encore qu'au fil du temps, le président a réussi quand même à avoir une certaine prise là-dessus. Et là, c'est de savoir à qui revient la prérogative. Est-ce que c'est au Congrès ou est-ce que c'est au président? Les tribunaux devront s'en charger. Et comme tu le fais justement remarquer, la Cour suprême, et en particulier depuis l'arrivée de Donald Trump, tranche de plus en plus à droite. ça ne revient pas à dire que les juges sont inféodés à Donald Trump puis que systématiquement, ils vont lui donner raison. Non, non. Mais c'est clair que la Cour suprême actuellement est beaucoup plus conservatrice, notamment avec les deux nominations faites par Donald Trump depuis le début de son mandat. La dernière étant celle de Brett Kavanaugh qui a été contestée. Alors, ça va être intéressant si ça se retrouve jusqu'en Cour suprême et tout le monde dit que ça va probablement remonter jusqu'en haut. Ça va être intéressant de voir de quel côté la Cour va balancer et va pencher dans le dossier-là.
Puis si on regarde sur le plan politique, est-ce que finalement, même si ça paraît extrêmement dramatique, déclarer l'état d'urgence, débloquer des fonds, passer outre la structure habituelle, puis pouvoir passer à côté du Congrès. Est-ce que, sur le plan politique, si on joue à l'analyste, là, c'est pas moins dommageable pour Donald Trump de faire ça que de retomber dans une paralysie de l'administration, ce qui lui avait quand même fait mal dans l'opinion publique?
Ben, tu soulèves une excellente question. Parce que dans le fond, Donald Trump se trouvait avec effectivement un dilemme. Soit effectivement, il prend la responsabilité d'une nouvelle paralysie, d'un nouveau shutdown, ce qui était prévisible à partir d'hier, ou encore, il s'expose aux critiques en décrétant l'état d'urgence nationale, parce qu'il va y en avoir des critiques. Puis il y a des gens qui se scandalisent déjà de voir que ces fonds-là, qui sont en principe réservés aux catastrophes naturelles ou aux événements qui sont tout à fait particuliers, puissent être utilisés et détournés à des fins partisanes pour la construction d'un mur, en tant que pour Donald Trump, ça répond à un objectif qui est essentiel, c'est assurer la sécurité des Américains. Je te dirais que face, dans le fond, à deux mauvaises solutions, Donald Trump a peut-être choisi la moins pire, ouais, surtout que ça lui permet de gagner du temps. Parce que le shutdown, ça aurait tout simplement été en vigueur à partir d'hier, donc la crise aurait été immédiate. Tandis que la contestation judiciaire qui risque d'y avoir avec la déclaration d'état d'urgence, ça peut s'étirer sur des mois, puis à la limite même sur des années, et pendant ce temps-là, Donald Trump gagne du temps.
Prof Arsenault, merci pour le petit cours privé de ce matin.
C'est toujours un plaisir. Bonne fête de journée tout le monde.
OK, au plaisir. Éric Arsenault, prof d'actualité internationale au Cégep de Jonquière.
Tellement intéressant. Ça a été un de mes enseignants, ça. Puis à chaque fois que je suis dans une radio quelconque, je le ramène avec moi.
Ah oui, écoute, moi, le prof Arsenault, je prendrais des cours à chaque semaine. À un moment donné, faut qu'on se diversifie,
oui,
là. Mais des petits cours privés, moi, comme ça, j'avais bien du fun. Puis surtout que c'est des affaires qui sont... Moi, j'ai toujours de la misère à comprendre les enjeux, tel pays impliqué dans telle autre affaire.
Il le vulgarise très bien.